France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Le Progrès, c'est une structure qui est plus adaptée et plus conviviale et sans jugement. Maintenant, je viens avec le sourire, alors qu'avant, quand j'allais à l'école, j'allais en pleurs. Et maintenant, ça a totalement changé grâce au micro-collège.
On va plus loin dans l'accompagnement qu'on pourrait avoir avec un élève classique. Un élève classique, on va lui dire « apprends ta leçon ». Là, on va lui dire « apprends ta leçon, mais je vais te prendre par la main et je vais t'aider à te montrer comment apprendre ta leçon parce que ça fait longtemps que tu n'as pas appris de leçon, par exemple. »
Il y a quelques mois, je me disais que j'allais jamais avoir mon bac, que je vais faire un métier qui ne me plaît pas et que ma vie va se résumer à ça. Alors que maintenant, je sais que je peux, il y a une possibilité que j'arrive.
Chaque année, près de 76 000 jeunes quittent le système scolaire français sans diplôme ni qualification. Ces jeunes en rupture de scolarité auront, statistiquement, beaucoup plus de mal à trouver un emploi. Et selon les calculs du cabinet Boston Consulting Group, une personne dont le diplôme le plus élevé est le brevet générera tout au long de sa vie active un surcoût pour la société d'environ 340 000 euros. L'enjeu est majeur. L'Union européenne s'en est d'ailleurs emparée. Elle veut réduire le taux de jeunes quittant prématurément le système éducatif à moins de 9% d'ici 2030. Certains efforts portent leurs fruits et en France, près de 80% d'une génération a atteint le niveau du bac en juin 2025. Mais ceux qui n'y arrivent pas se retrouvent d'autant plus exclus. Même si la précarité augmente le risque de décrochage scolaire, des élèves de toutes origines sociales et géographiques sont concernés. Et si le phénomène est plus fréquent vers la fin du collège ou au début du lycée, les difficultés peuvent commencer très tôt, parfois dès le primaire. On ne décroche pas simplement à cause de mauvaises notes. Orientation subie, harcèlement, difficultés familiales, situation de handicap sont autant de facteurs qui peuvent d'ailleurs s'additionner. Et la dégradation de la santé mentale des jeunes vient encore complexifier la donne. Comment parvient-on à rescolariser des jeunes ayant lâché l'école? Comment les accompagner pour qu'ils retrouvent estime de soi et motivation? Et comment sécuriser durablement leur parcours pour les amener jusqu'au diplôme et les aider à trouver leur voie? Après le décrochage, se réconcilier avec l'école, c'est un reportage signé Hakim Kazmi. Bonjour Hakim.
Bonsoir Aurélie.
Pour ce grand reportage, vous vous êtes intéressé aux structures de retour à l'école.
Effectivement, nous avons voulu comprendre comment la France, qui au début des années 2000, comptait 10% d'élèves décrocheurs, dont 60% d'entre eux sont issus des filières Bac Pro et CAP, a fait pour inverser cette tendance. En effet, pour y parvenir, le ministère de l'Éducation a dû accroître le nombre de structures dédiées pour accueillir ces jeunes, des structures telles que les micro-collèges, les micro-lycées et même des internats spécialisés pour les élèves décrocheurs où nous nous sommes rendus. Autant de dispositifs qui manquaient cruellement il y a encore 20 ans. Résultat, aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a plus que 7,8% de décrocheurs. Pour autant, Aurélie, le combat est encore loin d'être terminé.
Nous allons parler des solutions contre le décrochage scolaire avec deux invités. Bonjour Carole Zerbib.
Bonjour.
Membre du SNPDEN, syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. Vous êtes proviseur du lycée des métiers Vauquelin à Paris. Et bonjour Amel Kouza.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'Institut Bertrand Schwartz, centre de recherche et de développement au service du réseau des missions locales, les missions locales qui visent à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. J'ajoute que vous avez coordonné la rédaction et la publication d'une revue consacrée au décrochage scolaire et aux pistes de transformation. Avant de vous donner la parole à toutes les deux, je vous invite à écouter le reportage d'Hakim qui débute au micro-collège Guy Maréchal à Amiens.
Ah mais il pleut.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. On a 15 aujourd'hui. Alors, on se met en rang. Je vous réexplique un petit peu aujourd'hui comment ça va fonctionner. On fait une première partie de marche en extérieur. Et ensuite, on sera en petite salle pour un atelier un petit peu plus dynamique. Ok ? C'est parti, on y va. Hop. Alors, Dé et Paul, et je suis enseignant de PS au collège Guy Maréchal.
Alors là, il est 10h15 du matin, il y a encore de la neige d'hier, il pleut.
Oui.
Alors, quel est le but pédagogique de cette marche d'une heure?
Le principe, c'est de montrer aux élèves qu'avec une activité physique adaptée, tout le monde peut progresser à son niveau. On a démarré l'année par des sorties donc de marche, de randonnée, plutôt courtes, 2 km, 3 km. Et déjà, on pouvait voir qu'il y avait des élèves qui avaient des freins rien qu'à l'idée de sortir à l'extérieur, de réaliser une marche. Et au cours des semaines qui passent, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient tout à fait capables de faire ce qu'on leur demandait. Et au fur et à mesure, on a agrandi la distance. Donc on a fait des marches de 3 km, 4 km, jusqu'à la plus grande qu'on ait faite avant les vacances, qui était de 8 km. Après un petit bilan avec les élèves, ils se sont rendus compte qu'en fait, de façon progressive, ils étaient capables de répondre aux attentes et que c'était bien plus facile que ce qu'ils s'imaginaient. On peut traverser, on y va.
Alors, grâce à cette activité sportive, ça leur apprend le goût de l'effort, le fait de leur montrer aussi qu'ils peuvent atteindre des objectifs, ce qui va aussi les aider dans les cours plus classiques, comme le français, les mathématiques, ou encore l'histoire-géographie et l'anglais.
Tout à fait. En fait, là, on joue sur l'estime de soi, c'est-à-dire qu'au départ, l'élève n'a pas confiance en lui-même, il ne se sent pas capable de pouvoir faire ce qu'on va lui demander, et au final, il se rend compte, à travers la pratique, qu'il en est tout à fait capable et ça renforce sa confiance en lui, sa confiance également en l'enseignant, car l'élève voit que ce que l'enseignant lui propose, c'est tout à fait à sa portée et après ça peut se décliner sur les autres disciplines. Allez-y.
Comment tu t'appelles ?
Vassar Maïlis.
Tu es en quelle classe, Maïlis ?
Je suis en troisième.
Alors, ça fait combien de temps que tu es au micro-collège ?
C'est ma deuxième année.
Alors, qu'est-ce qui a fait que tu es venu au micro-collège à un moment ? Qu'est-ce qui était compliqué par rapport au collège classique où tu étais avant ?
J'avais une phobie scolaire. Du coup, j'allais plus en cours. Je m'étais déscolarisée dans mon ancien collège. Et du coup, on a trouvé le micro-collège. Et depuis, je suis mieux ici.
Alors, Maïlis, tu as 15 ans. Qu'est-ce qui fait que quand on a 15 ans, l'école peut faire aussi peur ?
Je pense que c'est... Enfin, moi, personnellement, c'était beaucoup les gens et le regard des autres ou ce qu'ils pouvaient dire. Ou même la pression scolaire, que ce soit les cours en général, les notes, tout. On est un peu tous en compétition entre nous sans le vouloir, finalement, quand on est dans un collège.
Et qu'est-ce qui fait que tu te sens beaucoup mieux depuis ton micro-collège ?
Parce que le micro-collège, c'est une structure qui est plus adaptée et plus conviviale et sans jugement.
Alors ce matin, on fait une marche, il fait très froid, il fait à peine 4-5 degrés, il y a encore de la neige et du verglas. Qu'est-ce que ça t'apporte, ces marches ? Est-ce que tu trouves que c'est intéressant ?
Oui, parce que je sais que, admettons, quand on sort avec mes copines et tout, on marche plus qu'avant. Genre, on va plus loin et tout.
Est-ce que ça a aussi des répercussions sur tes notes, par exemple ?
Je sais que ça m'a donné un peu plus confiance en moi, parce que du coup, je sais que je suis capable de faire plus à chaque fois, parce que le prof me dit « Ouais, non, ça, je vais pas le faire et tout, je vais pas réussir. » Alors que j'arrive en fait finalement.
Et au micro-collège, est-ce que tu as eu un suivi ? Est-ce que tu as pu parler avec des psychologues par exemple pour aller mieux ? Ou qu'est-ce qui a été mis en place pour t'aider à aller mieux ?
J'ai été suivie par des psychologues, même avant le micro-collège, j'ai des psychiatres aussi. Et je suis sous traitement pour la dépression, etc.
Et ça va mieux aujourd'hui ?
Oui. Maintenant je viens avec le sourire alors qu'avant je venais. Quand j'allais à l'école, j'allais en pleurs et maintenant ça a totalement changé grâce au micro-collège.
Au-delà de l'adaptation des cours d'EPS, les élèves du micro-collège Guy Maréchal bénéficient également d'autres dispositifs spécifiques aux élèves décrocheurs, comme l'atelier Active tes neurones, où ils vont retravailler les bases comme la conjugaison. Car certains d'entre eux ont été déscolarisés pendant des mois, voire des années. Or, comme leurs camarades scolarisés dans les collèges classiques, ils doivent passer à la fin de la troisième le diplôme national du brevet. Agnès Mounier est professeure d'anglais et co-anime l'atelier.
C'est des élèves souvent qui sont, comme ils ont décroché, ils n'ont pas pu acquérir toutes les méthodes qu'on peut proposer. Donc c'est vraiment de les remettre, leur rappeler comment on doit apprendre. Parce que franchement, quand vous êtes resté un an chez vous, deux ans chez vous, parfois on ne sait plus comment faire. Donc c'est vraiment les accompagner, je pense. Plus on va plus loin dans l'accompagnement qu'on pourrait avoir avec un élève classique. Un élève classique, on va lui dire « apprends ta leçon ». Là, on va lui dire « apprends ta leçon, mais je vais te montrer, je vais te prendre par la main et je vais t'aider à te montrer comment apprendre ta leçon parce que ça fait longtemps que tu n'as pas appris de leçon, par exemple ». C'est plus dans cet esprit-là. Et on se rend compte que le travail personnel, le travail en dehors des cours, c'est vraiment très compliqué pour certains élèves. Comme ils ne donnent pas de sens à l'école, ils n'arrivent pas du coup à comprendre pourquoi il faut apprendre aussi. On fait aussi un petit peu de théorie, on leur explique pourquoi on doit apprendre, pourquoi c'est important d'apprendre par cœur, de réciter, c'est important.
Il faut aussi gérer la peur, l'angoisse, certains de la phobie scolaire. Hein. Ça aussi, il faut le gérer durant ces ateliers.
Oui, il faut gérer ça. Bah, vous voyez, il y en a qui ont un petit peu plus de mal à se mettre au travail. Il faut accueillir l'élève même s'il est en retard. En lui disant, bah, viens, mais c'est en retard, c'est pas grave. Et puis, bah, les rassurer. On passe beaucoup de temps à leur essayer de leur donner confiance, à leur dire, tu peux y arriver, regarde, je vais t'aider, je te montre comment on fait. Vas-y, fais-le. Et puis, bah, beaucoup les encourager quand ils y arrivent. En fait, ils ont besoin d'être encouragés, oui. Je trouve que ce qui est difficile, c'est de jongler entre les exigences qu'on doit avoir pour eux, parce que s'ils reviennent à l'école, s'ils ont fait cet effort-là, c'est que aussi ils veulent se réinsérer et reprendre un parcours normal, donc on doit être exigeant avec eux, mais aussi à savoir pas être trop dur, à les comprendre, à comprendre quels sont leurs problèmes, leurs blocages, leurs empêchements, et nous être assez indulgents aussi pour accepter des choses. Donc c'est vrai que c'est vraiment, c'est dur parfois, c'est difficile.
Parce qu'il y a aussi ce défi qui est que vous, lorsque vous les recevez, malgré le fait qu'on soit dans un dispositif particulier qui est le micro-collège, à la fin, il y a cette chance de passer le brevet des collèges comme tout le monde à la fin de la troisième.
Exactement, oui, tout à fait. Donc on doit être exigeant et ça. Et d'ailleurs, au micro-collège, il y a des très bons résultats au DNB. Donc on va aménager les emplois du temps différemment. Par exemple, en collège classique, j'ai 3 heures d'anglais par semaine. Là, j'en en ai que 2. Mais par contre, on va faire activité neurone. Vous voyez, on va pouvoir répartir, mais ça permet à la fois de garder l'exigence en ayant des cours classiques, entre guillemets, mais aussi d'adapter par ailleurs avec des dispositifs différents pour les accompagner.
On n'imagine pas qu'un élève décrocheur puisse comme ça, en 2 ans, rattraper son niveau et passer le DNB au bout de 2 ans.
Alors, il y a des élèves décrocheurs qui ont des très bons niveaux. D'ailleurs, c'est ce qui est un peu compliqué aussi, c'est qu'on a une hétérogénéité énorme entre des élèves qui ont décroché et qui vraiment, on doit revoir les bases, et des élèves qui ont décroché, qui ne sont pas venus à l'école, mais qui ont continué à acquérir beaucoup de savoir. Ceux-là, on va avoir plus besoin de méthode. Ils n'ont pas besoin de savoir, ils ont plus besoin de méthode, par exemple. On y arrive. Alors, ils vont pas tous aller en seconde générale, mais c'est pas grave. Ils vont obtenir leur DNB et après pouvoir aller au lycée, même si c'est un lycée pro, enfin voilà, après on travaille sur l'orientation aussi en fonction du profil des élèves. Mais c'est pas très différent de ce que je peux vivre en collège Ré plus à côté, quoi. C'est pas très différent.
Tu vas me faire me la plantonner ?
Oui.
Alors Tess, quel âge tu as, Tess ?
J'ai 14 ans.
Et donc quelle classe, 4e ?
4e, j'ai redoublé.
Alors tu peux nous expliquer qu'est-ce que vous avez fait tout à l'heure pendant l'atelier ?
Bon, on a travaillé sur le passé simple parce qu'on a une évaluation demain.
Et ça, c'était les bases que tu avais encore du mal à acquérir ?
Un petit peu pour certains verbes.
Est-ce que tu as mieux compris ?
Bah oui, du coup, les terminaisons, oui, c'est un peu plus facile.
Les petits effectifs, c'est très important pour vous, pour mieux comprendre les cours, les conjugaisons, la grammaire ?
Bah en vrai, oui, parce que vu qu'on est moyen, moins de bruit, puis les profs, ils peuvent beaucoup plus être libres pour un élève. Du coup, je comprends mieux les cours et mes résultats, ils ont augmenté du coup.
Ils sont passés de combien à combien ?
De 4, je crois, à 12.
Est-ce que tu aurais pensé passer de 4 à 12 quand tu es arrivé au micro-collège, vu les difficultés que tu avais avant ?
Non, j'aurais pas pensé, parce que déjà l'année dernière, ma mère elle voulait que j'aie 12 minimum de moyenne, mais j'y arrivais pas.
Est-ce que tu appréhendes le jour où il faudra retourner dans une école, dans un collège ou un lycée classique ?
Bah franchement, j'ai pas envie, parce que déjà, là où je vais, il y aura beaucoup de monde, il y a plusieurs lycées dans le même endroit, et du coup j'ai pas du tout d'y aller, parce que les profs, ils seront pas trop tolérants et tout.
Tu sens que t'es encore fragile, mentalement, moralement, pour intégrer une classe classique ?
Bah franchement oui, parce que je préfère beaucoup plus le micro-collège.
Alors, nous sommes désormais au micro-lycée du Bourget, ici en Seine-Saint-Denis dans le 93, qui est l'un des départements les plus pauvres de France, mais aussi celui où il y a le plus de décrocheurs en métropole. Nous allons donc partir à la rencontre de Chloé Chaumier, professeure de français, qui est aussi coordinatrice du micro-lycée du Bourget.
Donc nous sommes au rez-de-jardin du lycée Jamène-Tillon du Bourget, au micro-lycée 93, donc qui occupe un couloir dans ce bâtiment. On peut faire un tour en salle commune si vous voulez pour voir le lieu, le cœur des élèves et des profs. Je suis pas obligée d'arrêter de papoter une fille. Alors, nous sommes dans la salle commune du micro-lycée. C'est un espace partagé pour les élèves, pour les enseignants, pour l'équipe. Un espace où les élèves peuvent se reposer, manger, boire un café, travailler, jouer. Enfin, voilà, c'est leur espace, c'est aussi le nôtre. C'est aussi le lieu de plein de temps informel avec les élèves, de beaucoup de discussions. Voilà, il y a des petits gâteaux qu'on met le matin pour ceux qui n'auraient pas trop le temps de petit déjeuner ou qui ont un creux dans la journée. L'idée, c'est qu'ils puissent se retrouver ici un peu comme à la maison. On a un endroit où on peut se rassembler, où on peut se retrouver, où on peut aussi parfois s'extraire des cours parce que les journées sont longues, sont éprouvantes. Et l'idée, c'est d'essayer d'accompagner la création d'un collectif d'élèves, d'un collectif qui englobe aussi l'équipe pédagogique. Parce que c'est ce groupe qui, finalement, les porte vers l'examen, vers la préparation au supérieur. Donc, en fait, on voit les bénéfices dans ce qui est scolaire, de finalement offrir des temps qui ne le sont pas directement. Donc ça, c'est le recueil de poèmes d'Hélène Dorion, sur lequel on va travailler donc en deuxième séquence. Loïc, vous l'avez ? Et qu'on a commencé à introduire. Alors, est-ce que quelqu'un qui était là vendredi veut bien raconter un petit peu aux autres ce qu'on a fait vendredi dernier ?
Les élèves scolarisés au micro-lycée 93, qui ont été au préalable sélectionnés par l'équipe pédagogique, sont en grande partie majeurs. Ici, ils espèrent décrocher leur bac, notamment grâce à des petits effectifs avec pas plus de 15 élèves par classe, à l'image de Mailing, âgé de 20 ans et qui a interrompu ses études pendant 2 ans et que nous retrouvons en cours de français. La jeune femme, qui désormais est en première générale, espère bien décrocher son bac l'année prochaine.
Alors, je m'appelle Mailing Obidol.
Et tu as quel âge ?
J'ai 20 ans.
Et toi, en quelle année tu as arrêté ta scolarité avant de revenir ici ?
Je me suis arrêtée en seconde. J'ai fait un an de sabbatique et après j'ai travaillé pendant un an. Puis après, je suis venue ici pour reprendre mes études.
Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté ta scolarité à un moment ? Qu'est-ce qui t'a stressé en fait ?
C'était un sujet avec mon handicap. Je suis multi-dys. J'ai tous les 10, dyslexie, dyscalculie, etc. Et c'était assez compliqué pour les études parce qu'il faut mettre toutes des choses en place et certains établissements ne comprennent pas. Donc du coup, j'ai dû arrêter pour me concentrer sur un métier qui pourrait me plaire.
Alors, qu'est-ce qui était difficile au début quand tu as repris les cours ? J'imagine que c'est pas évident de revenir dans une classe au bout de 2 ans quand on s'est arrêté.
Ce qui était difficile, c'est de reprendre le rythme, de reprendre les règles de l'établissement. Parce qu'avec le temps, on oublie qu'il y a des heures à aller, il y a des choses à pas faire, il y a des choses à faire. Mais la première semaine, c'était dur. Et après, au fil du temps, c'est redevenu commun, une habitude, quoi. Ce qui était difficile pour moi, c'est de me dire que j'aurais pas de gens de mon âge et que mes amis à côté avaient déjà un travail, une situation, et que moi, c'était un peu compliqué. Mais depuis que je suis venue dans l'école du micro-lycée, que j'ai vu qu'il y avait des gens de mon âge, c'est là que j'ai compris qu'il n'y a pas d'âge pour reprendre ses études, il n'y a pas d'âge pour changer de voie.
Est-ce qu'au début, tu as eu peur de pas résister, de décrocher au bout d'un mois, de 2 mois ?
Oui, honnêtement, oui, j'ai eu peur de refaire, avoir peur d'aller en cours, d'être stressée pour l'emploi du temps. Mais l'école fait que on nous apprend que c'est de notre volonté, donc le fait de ne pas nous donner de pression, ça donne envie d'y aller. Du coup, on se dit que ce n'est pas une restriction, c'est vraiment un plaisir d'aller en cours.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à te projeter, à te dire, voilà, l'année prochaine, je vais avoir mon bac, je vais peut-être pouvoir faire des études supérieures. Est-ce que tu arrives à te projeter aujourd'hui plus qu'avant ?
Pour être honnête, je ne pense pas que j'arrive à me projeter pour faire autre, mais j'arrive au moins à me projeter d'avoir mon bac. Et je trouve que c'est quand même une sorte de... j'ai gagné quelque chose de pouvoir me dire qu'un jour, j'aurai mon bac. Il y a quelques mois, je me disais que j'allais jamais avoir mon bac, que je vais faire un métier qui me plaît pas et que ma vie va se résumer à ça. Alors que maintenant, je sais que je peux, il y a une possibilité que j'arrive.
Et là, vous avez plusieurs choix. Donc, vous choisissez une peinture ou une représentation et ensuite, vous écrivez un texte. Ça peut être un texte poétique, un texte narratif ou un texte descriptif. C'est bon pour vous ? Pas de quantité, note pas au poids.
Bonjour.
Vous venez faire le journalisme ?
C'est ça.
Oui.
Ok.
Nous sommes désormais à Marseille, au centre de la ville, devant le collège Vitagliano, dirigé par la fondation Apprentis d'Auteuil, un collège dans lequel il y a un internat dédié pour les élèves décrocheurs. En effet, l'internat joue un rôle essentiel pour ces élèves, afin qu'ils puissent retrouver le goût de l'école, avec notamment des dispositifs mis en œuvre pour aider ces élèves, comme par exemple l'aide aux devoirs. C'est ce que nous allons voir en partant à la rencontre de l'équipe pédagogique.
Oui, alors bonjour, moi c'est Sabina Eladji, je suis assistante d'éducation au sein de Vitagliano à la vie scolaire et je suis aussi éducatrice à l'internat IES. Donc là actuellement nous sommes sur l'internat.
Vous pouvez nous rappeler ce que veut dire IES ?
Donc c'est internat éducatif scolaire.
Alors il est 16h30, c'est l'heure de l'étude.
Oui, tout à fait.
Pour les collégiens dont vous vous occupez, qui sont ici à l'internat, ils vont donc participer avec vous aux devoirs.
Oui, exactement, ouais. C'est tous les jours, en fait, du lundi au jeudi, parce que le vendredi, il rentre à la maison. Donc, il y a un temps de devoir de 16h à 18h. Ça concerne les élèves de 6e à la 3e.
On est parti ?
Allez, c'est parti. Par contre, actuellement, là, nous avons une personne qui vient de l'extérieur, qui vient nous aider à faire les devoirs avec les jeunes de 3e. Monsieur Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va.
Bonjour.
On va pas
léger.
Bonjour.
Donc voilà.
Bon, vous voulez prendre un cours de maths sur la révision de la trigonométrie ? Bon, là, l'idée, c'est de calculer le sinus de 30 degrés. Alors, sinus, est-ce que tu le vois en quelque part sur la calculatrice ? Cherche. Pour les fonctions, là. Alors, comment on fait ? On écrit 30 degrés, écrit 30, et tu appuies sur sinus, tac, et ça fait 0,5. D'accord ? Donc, sinus 30 degrés. Donc tu te souviendras, avec une calculatrice, c'est facile. Jean-Paul Lacroix, je suis retraité, bénévole, depuis quelques années maintenant, ici. Quoi.
Vous étiez enseignant vous-même avant ?
Non, j'étais ingénieur, pas du tout enseignant.
Alors quel est le but avec ces élèves là ? Comment travaillez-vous avec eux ? Comment vous vous adaptez à leurs difficultés pour leur donner le goût des maths ?
En général, je leur demande de lire ce qui les gêne le plus. Et puis on essaie de revenir aussi loin qu'il faut revenir. Si ce n'est pas la troisième, on essaie de revenir à la quatrième, à la troisième. L'idée étant même, si on fait presque rien, je les ai une trois quarts d'heure à peu près, si on fait presque rien, c'est qu'au moins ils aient progressé sur un truc qui les bloquait, qui les embêtait beaucoup. Et moi, je suis récompensé quand il y en a un qui me dit « Ah, j'ai compris ». Même si c'est un tout petit truc, voilà. Donc on avance des fois très très peu, mais au moins on avance. Et puis on fait ça dans la bonne humeur en général.
Oui.
Je suis tout sauf un prof. Hein. Je suis plutôt un grand-père, quoi.
Vous êtes en quelle classe, les enfants ?
On est en troisième.
Avec le brevet à la fin ?
Exactement.
Est-ce que je peux t'interroger ?
Oui.
Quel est ton nom, ton prénom ?
Thierry Lannes.
En quoi cette aide de le voir ici à l'internat ?
Ben, par exemple, quand j'ai pas compris avec le prof et que je sais qu'il y a Monsieur Lacroix, ben, à la fin, je peux poser la question à Monsieur Lacroix si j'ai pas compris.
Alors ici, on est dans un établissement qui s'occupe des décrocheurs. Toi, à quel moment tu as décroché de l'école ? À quel moment tu es venu ici ?
En fait, ça a commencé vers la fin de cinquième. Et en quatrième, comme j'étais avec tous mes collègues et tout, et ben là, j'ai commencé à décrocher. Quand je suis arrivé ici, ben, j'ai repris le cap scolaire.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'ici, tu arrives à mieux te concentrer, alors ?
Et ben, ici, je suis dans un meilleur cadre. À la maison, on a d'autres distractions. On a le téléphone, on a la télé, on a plein d'autres choses. Du coup, c'est plus difficile. Et ici, je trouve que c'est plus facile.
Parce qu'ici, on n'a pas le droit au téléphone.
C'est ça. On n'a pas le droit au téléphone, c'est... Certes, c'est dur, mais après, c'est un mal pour un bien.
Quoi ? Ouais, c'est bon. Hein ? On
s'est bâché ensemble ?
De quoi ?
Le pyjama ?
Absolument. Non, même pas.
Après l'étude, les collégiens rejoignent leur chambre pour se reposer ou participer à des activités. C'est là que nous retrouvons Maël, qui est en classe de 4e. Arrivé à l'internat à la rentrée, il a commencé à décrocher à la fin de l'école élémentaire. Est-ce que pour commencer, tu peux nous présenter ta chambre, nous la décrire comme c'est de la radio ?
En fait, au début de l'année, elle n'était pas comme ça, elle était changée parce qu'elle était très petite. On a déplacé deux placards. Et là, elle a changé, on a vu qu'on a un grand espace là et là.
Alors, est-ce que tu as des petits objets un peu pour te rappeler la maison ou la famille ? Est-ce que tu as des petits objets importants que tu gardes avec toi à l'internat ?
Des mangas, des livres comme ça que j'ai achetés. C'est Frigel et Fluffy. C'est un livre de Minecraft.
Alors qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé ici ? C'est parce que tu as décroché avant quand tu étais en 6e, en 5e ?
Ben ouais, un peu. J'avais entre 9 et 6 de moyenne. Je travaillais pas trop. En fait, jusqu'à CM1, je travaillais, je faisais rien. J'étais calme. On m'entendait même pas, zéro mot sur cahier. Et depuis CM2, et bon, en fait, je sais pas, j'ai commencé à faire n'importe quoi. Et ça a suivi jusqu'à la 6e. Et maintenant, en 5e aussi, j'étais exclu de l'établissement des fois des semaines pour avoir fait des choses. L'année dernière, j'avais beaucoup d'exclusions de classe. Maintenant, là, j'en ai plus, je travaille mieux. Et voilà.
Alors, qu'est-ce que t'as fait comme bêtise pour être exclu?
J'avais pété des pétards dans les toilettes, écrit un gros mot sur la gomme et l'a lancé sur le prof. Il fait quoi? Je suis rentré chez moi plusieurs fois parce que j'écoutais pas le prof. En fait, vu que tous les jours je travaillais pas et je séchais les cours, à un moment ils m'ont dit à chaque fois tu travailles pas, tu rentres chez toi. Après, j'ai fait des bêtises, j'ai exclu, mais je m'en rappelais plus.
Et qu'est-ce qui a fait que tu faisais toutes ces bêtises? Pourquoi t'avais plus le goût à l'école et pourquoi t'avais plus envie de travailler? Qu'est-ce qui était l'élément déclencheur?
L'élément déclencheur, je sais pas du tout. Et en fait, en CM2, j'avais un prof. C'est le seul prof qui m'a fait ça. Il voulait porter plainte contre moi pour rien. Il dit oui, genre en fait, je faisais du bazar dans sa classe. Mais en fait, le CM2, c'est l'élément déclencheur, je crois, c'est à cause de mon prof.
Et à la maison, ça allait? Le soutien de tes parents, ça t'a pas aidé à essayer de faire moins de bêtises?
Ouais, mais mes parents, ils me faisaient des fois retenir la leçon. Quand je rentrais chez moi, ils me punissaient beaucoup. Et donc, j'en avais marre d'être punie.
Alors, qu'est-ce qui fait que Maëlle, ici, tu te sens mieux et tu ne fais plus de bêtises? En quoi l'internat, ça t'a aidé à aller mieux?
Dans mon collège, c'était vraiment, vraiment sévère qu'avec moi. Ma CPE, elle me crie dessus tout le temps. Elle appelait ma mère tout le temps. Et là, je me sens mieux parce que la CPE, elle nous aide. Elle vient dans les classes pour vérifier et tout. Elle s'occupe de nous. Des fois, elle vient manger avec nous, notre CPE. Alors qu'elle peut très bien rester sur son bureau, se prendre un truc à manger. C'est ça, elle nous aime et voilà.
En quoi les éducateurs, ils sont importants aujourd'hui? C'est un peu comme des grands frères, dans la mesure où tes parents ne sont pas là durant la semaine?
Parce que c'est comme mes parents, quoi. C'est comme mes parents un peu, parce qu'ils me divisent. Va te doucher, fais tes devoirs. Enfin, ils ne m'obligent pas, ils ne me disent pas strict, ils me le disent normal. Et moi, de toute façon, j'y dis oui. Et des fois, quelques fois, je les écoute pas et je reste dans les couloirs, je traîne avec.
Voilà. Et t'as des punitions après?
Ouais, j'ai des punitions. Nous, après manger, on fait des veillées. On parle avec ses copains dans les chambres, regarder des films. Et quand j'écoute pas, je suis punie de veiller. C'est la punition.
Est-ce que des fois, la maison, ça te manque, Maëlle?
Ouais, en fait, ça manque. Non, pas trop. En fait, non, ça manque pas trop.
C'est bien ici, tu te sens bien. Et est-ce que le fait d'avoir des camarades comme toi qui ont été décrocheurs, ça t'a aussi rassuré, ça t'a aussi aidé?
Ouais, c'est ça qui m'a aidé. Je me suis dit au moins je suis pas le seul qui a un décrochage scolaire. Et j'aime l'internat parce que c'est comme si je vis avec mes collègues, quoi, c'est bien. Il y a des éducateurs, des collègues avec nous et tout, donc c'est bien.
Est-ce que tu te sens prêt, quand tu auras ton brevet des collèges en 3e l'année prochaine, est-ce que tu te sens prêt à repartir en seconde dans un établissement classique, ou t'as peur de redécrocher en quittant l'internat?
Non, je pense pas que je vais redécrocher, parce que là, vers la 5e, j'étais... Bon, là, je suis pas mature, mais j'étais plus vraiment, vraiment immature. Je faisais n'importe quoi. Et là, ma mère et tous mes éducateurs m'ont fait comprendre que après le brevet, il y a le lycée. C'est là où je dois choisir. Donc, faut vraiment pas faire le bazar, parce que c'est soit pro, j'apprends mon métier, ou général, je continue mes études. Donc, c'est là où je me dis, faut s'arrêter de rigoler et vraiment travailler, parce que là, soit en fait, tu fais un grand travail, ou soit un travail normal.
Et tu voudrais faire quoi plus tard, Maëlle?
J'en ai aucune idée. Je sais pas. Vraiment, je sais pas.
Sabina, enlève-moi. Oh mais Alicia.
Alors, Lydia Béniche, je suis éducatrice sur la vie scolaire, mais également sur l'internat éducatif et scolaire.
En quoi l'internat est-il fondamental pour ces anciens décrocheurs scolaires afin de raccrocher les élèves au système scolaire lorsqu'ils ont été décrocheurs avant d'arriver chez vous?
Alors déjà, au niveau de l'internat, ce qui est primordial, c'est qu'en étant en internat, ils viennent à l'école, au collège, tous les jours. Quand on parle un peu avec les jeunes, qu'on prend du temps, ils nous disent « mais j'ai jamais été autant à l'école cette année que durant mes dernières années ». Donc le fait d'être sur l'internat qui est au sein de l'établissement scolaire, ça leur permet d'être régulièrement à l'école et d'avoir fait baisser le taux d'absentéisme.
Alors j'imagine que malgré tout, lorsque les élèves arrivent, durant les premiers jours, les premières semaines, il y a quand même beaucoup de choses à assimiler et qu'en termes d'autorité et de règles, c'est pas forcément évident au début pour eux de mettre ça en place.
Pas du tout, on va se cacher. Sur la première période, donc septembre-octobre, on va dire que sur toute la première période de scolaire, on remet les bases, en fait, les fondations sur le cadre, la régularité, l'heure du coucher, l'heure du réveil, préparation des cartables. Pour beaucoup d'élèves, c'est une première fois aussi à l'internat. C'est une première fois sur une coupure de lien avec la famille du lundi au vendredi. Et on est autant dans la gestion des émotions, de la rupture du lien avec la famille, du cadre, des règles, etc. C'est vraiment pour eux une période qui est assez compliquée. Vous seriez venu faire l'interview au mois de septembre-octobre, ça n'aurait pas du tout été le même qu'aujourd'hui. Parce qu'on a énormément d'enfants, par exemple, dans la gestion des émotions, qui sont même en troisième, qui pleuraient tous les soirs parce que la famille leur manquait. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient à l'internat. Ils ne comprenaient pas ce qu'on pouvait leur apporter. Et du coup, c'était une période assez compliquée. Pour beaucoup, une grosse majorité, depuis le retour des vacances de novembre, c'est beaucoup plus apaisé. Ils ont une autre vision de ce que peut leur donner l'internat et de ce que peut leur procurer l'accompagnement de l'équipe éducative ici.
Pour certains types de décrocheurs, les écoles spécialisées ne suffisent pas toujours. C'est particulièrement le cas pour les élèves qui sont atteints de phobie scolaire, comme Louise, 12 ans, qui est en 5e. L'adolescente est suivie à la clinique des Trois-Cyprès, un établissement spécialisé dans l'accueil des élèves atteints de phobie scolaire ou de troubles de l'attention. Elle le reçoit chez elle, avec sa mère, à Cassis, à une trentaine de kilomètres de Marseille. Qu'est-ce qui te stresse actuellement lorsque tu vas à l'école?
En fait, il n'y a pas forcément une chose, c'est plus plusieurs petites choses. On va dire, déjà moi, j'ai beaucoup de mal avec le bruit. Donc le bruit, les notes, pas oublier des cahiers, avoir ceci ou cela à faire avant telle date ou telle date. Enfin, en fait, c'est les objectifs mis en place. Même s'ils sont à la portée de tout le monde, c'est ça qui met un stress supplémentaire. Et c'est tout ça qui fait que ça me stresse d'aller au collège. J'avais aussi la crainte de ne pas avoir une bonne note, même si mes parents ne me mettaient pas forcément la pression sur ce point-là. Et après, avec la fatigue, le bruit, ça fait qu'au final, je ne supportais plus, tout simplement.
Je crois savoir que tu as des bonnes notes en plus.
Ça va. Ça va, oui.
C'est combien ça va?
C'est que en premier trimestre, j'avais 18 de moyenne générale. Et après, du coup, le deuxième trimestre, là, pour l'instant, je ne suis pas allée.
Alors justement, on pourrait se dire qu'au contraire, ça devrait te rassurer. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, tu as cette phobie scolaire malgré des excellents résultats?
Sincèrement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qui cause ça, mon stress, mais... Voilà.
Cette phobie scolaire, comment elle se caractérise? Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se traduisait au quotidien?
Je faisais des crises d'angoisse à l'idée d'aller au collège. En général, comme j'étais très fatiguée, ça me fatiguait beaucoup, j'avais des maux de tête, j'avais une anxiété qui grandissait au fur et à mesure du temps. J'avais des douleurs à certains endroits du corps. Par exemple, j'avais mal au coude, j'avais mal au pied, alors que forcément, j'ai pas forcément fait quelque chose, un gros choc ou quoi. J'étais très, très fatiguée, surtout.
Et qu'a fait l'équipe pédagogique dans ton collège? Ils t'ont mis en place un emploi du temps spécial? Tu faisais comment, du coup, pour suivre les cours, malgré tout?
Mon collège, il était assez, on va dire, bienveillant par rapport à ça. La CPE était très à l'écoute et attentive. Donc quand, par exemple, je ne me sentais pas dressée dans la cour avec beaucoup de bruit, je pouvais aller au CDI ou en permanence. Et pour rattraper les cours, quand j'étais à la clinique, y avait une amie à moi, qui est mon binôme, qui me faisait rattraper les cours, qui me donnait les feuilles, qui m'expliquait les cours que je ratais. Ça ne posait pas forcément de problème.
Là, on a beaucoup parlé de l'école, de la classe. Du coup, qu'est-ce qui est mis en place à la clinique et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça pourrait t'aider à aller mieux?
Il y a les deux demi-journées mises en place où je peux penser à autre chose. Comme j'aime beaucoup les animaux, quand je vais à la ferme, j'aime beaucoup ça, j'aime bien m'occuper. Puis des fois, les animaux, ils ont des comportements assez rigolos, donc on peut rigoler, etc. Et la poterie, ça m'apporte du calme et j'aime beaucoup le calme. Je confectionne des bols, des choses comme ça, et j'aime bien faire ça, ça me détend.
Au début, on ne connaît pas cette anxiété particulière qui est liée au contexte scolaire. On ne sait pas ce que c'est, donc au début, c'est très dur de l'identifier.
Soraya, la mère de Louise.
Donc oui, on est démunis parce qu'on ne sait pas, quand on a un enfant qui dit « je ne veux pas aller à l'école », on sait qu'on ne va pas pouvoir le forcer. Même si on essaye, en fait, ça ne marche pas. Et il faut vraiment que l'enfant... En fait, c'est ça dont on n'a pas conscience. Quand on a un enfant qui va à l'école sans problème, en fait, on n'a pas conscience du fait que l'enfant, il adhère. De toute façon, que c'est quelque chose qui est un peu, entre guillemets, naturel. On ne se pose pas de questions. Mais quand il arrive que c'est plus du tout naturel et qu'il y a un stress, une souffrance à la base de ça, on a du mal à l'identifier. On est désemparés, ouais. Parce qu'on sait pas, on sait pas quoi faire. On sait pas vers qui se tourner. Et puis... tous les professionnels de santé ne sont pas formés à ça, donc c'est un peu compliqué. Ouais.
Alors qu'est-ce qui a changé à partir du moment où votre fille a commencé à être suivie? Est-ce qu'elle a moins séché les cours? Est-ce qu'elle avait un peu moins peur d'aller en cours?
Alors pas vraiment, non. Malheureusement, à notre grand désarroi, même si elle a commencé à consulter des psychologues, à être prise en charge à la clinique des Trois Cyprès, alors... Le fait qu'elle soit hospitalisée, elle va pas à l'hôpital, mais elle suit des ateliers, en fait, à la clinique, de demi-journée. Effectivement, ça a allégé son planning scolaire et ça lui faisait du bien d'y aller. Et ça allège un peu la pression. Mais le reste du temps, c'était quand même très difficile pour elle d'aller au collège. Donc ça n'a pas suffi, en fait, pour alléger le stress.
C'est la raison pour laquelle, finalement, pour l'instant, elle a interrompu sa scolarité dans son collège classique pour intégrer un micro-collège?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que Louise n'arrivait plus du tout à aller au collège. Et surtout, on voyait que ça la mettait dans un état de souffrance qui était trop important. Donc, en tant que parent, ça devenait plus possible de voir notre enfant comme ça, en fait. Parce qu'on craignait qu'elle tombe en dépression à cause de ce stress. Donc, on avait très peur et tout de suite, on a tiré la sonnette d'alarme et on a prévenu la clinique des Trois Cyprès. Donc, c'est le pédopsychiatre qui nous a conseillé qu'elle intègre un micro-collège très rapidement. Donc, on a eu énormément de chance qu'elle soit prise en charge et puis qu'elle intègre ce micro-collège très vite, en fait. Ça s'est fait en une semaine, hein, donc on a eu énormément de chance.
Mais pour les pédopsychiatres de la clinique des Trois Cyprès, les docteurs Solal Stora et Charles Tassi, la lutte contre le décrochage scolaire doit aussi passer par une meilleure détection ainsi que par plus de sensibilisation dès l'école élémentaire. Un objectif qui ne pourra pas être atteint sans la volonté et l'implication du ministère de l'Éducation nationale.
Peut-être que le premier axe, ce serait de venir un peu les sensibiliser sur ces questions-là pour avoir un repérage un petit peu plus précoce des difficultés et de pouvoir nous orienter ces jeunes-là un peu plus tôt, parce que dans la question du refus scolaire, il y a quand même le on va dire la cinétique de prise en charge qui est quand même très importante et qui permet d'entrevoir un pronostic, voilà, dès lors qu'on s'attelle très tôt à évaluer le jeune, à le rencontrer, à mettre des choses en place. Ça permet assez rapidement de résoudre ces difficultés-là. Sensibiliser également les professeurs sur ces difficultés, les pathologies aussi. Il y a dans l'imaginaire collectif quand même cette idée, pour la plupart des troubles du registre psychologique, que il suffirait un peu de se bouger pour que ça aille mieux, il suffirait de stimuler un peu les jeunes pour qu'ils y arrivent, qu'en gros c'est juste dans leur tête et que ce n'est pas les aider que de venir psychiatriser ça. Alors l'idée, c'est pas de psychiatriser n'importe quelle difficulté, bien entendu, mais c'est quand même de tenir compte de ces difficultés-là et de bien faire la part des choses entre ce qu'on va venir un petit peu adapter pour faciliter des choses sans pour autant, j'allais dire, l'enjeu, c'est pas de faire en sorte qu'ils aient de meilleures notes. C'est un principe d'équité que de leur permettre d'accéder à des résultats qui correspondent réellement à leurs capacités par des petites adaptations. Et ça, c'est des choses que l'Éducation nationale a parfois un peu de mal à comprendre.
Moi, je rajouterais aussi qu'il y a c'est un peu réciproque, c'est-à-dire qu'il y a un champ lexical et un narratif qui doit changer. La fainéantise, c'est quelque chose qui est quand même... C'est facile de dire que les gens sont fainéants. Il faut peut-être se poser la question de savoir pourquoi celui-là, alors qu'il y arrive là, n'y arrive pas du tout là. Et c'est vrai que ces questions-là, elles remettent en question la pratique de gens qui travaillent depuis des années d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est compliqué pour eux d'envisager que, en fait, c'est pas juste un fainéant, c'est pas un bon à rien. C'est une minorité de profs qui sont comme ça, mais certains se rangent un peu là-dessus. Et donc, il y a vraiment essayer d'être au plus près. Alors, ça me paraît être aussi très compliqué de leur demander ça, puisqu'ils ont quand même des classes qui peuvent aller jusqu'à 30, 35 élèves, et de s'adapter et de repérer les difficultés de chacun dans un contexte où on change de groupe classe toutes les heures, et en plus, il y en a 35 par classe. Il faut savoir qu'on parle de trouble de neurodéveloppement, il y a à peu près un enfant sur 6 qui est concerné. Donc, par classe, ça commence à faire pas mal. Donc, si on doit à chaque fois être vigilant à ça, ben, ça paraît beaucoup. Donc, moi, si je rajoutais ce que disait le docteur Stora, je dirais de la flexibilité, des groupes classes un peu plus petits, ça serait à mon avis beaucoup beaucoup plus pertinent, et surtout voilà de la bienveillance à l'égard de ce qu'on ne sait pas, et nous réciproquement, hein, y a des choses qui sont mises en place qu'on par l'école alors qu'on n'y aurait jamais pensé. En fait, la clé c'est aussi les enseignants, et il y a des enseignants qui trouvent des solutions absolument incroyables à des problématiques que aucun professionnel de santé mentale ou de proximité avec les problématiques de refus scolaire n'aurait eu. Donc c'est là où on se rend compte que ça dépend vraiment des établissements et qu'on peut se flexibiliser dans le cadre de l'éducation nationale. Mais chaque prof est différent, chaque directeur d'établissement est différent. Et peut-être c'est homogénéiser un peu la compréhension de tout ça qui permettrait d'améliorer un peu les choses.
Après le décrochage, se réconcilier avec l'école, un reportage d'Hakim Kasmi avec Maëlle Larfassor et Alexandre Abergel à la prise de son et Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Nous retrouvons nos invités, Amel Kouza, responsable de l'Institut Bertrand Schwartz, et Carole Zerbib, proviseur du lycée des métiers Vauclin à Paris. Carole Zerbib, Hakim a voulu voir comment fonctionnaient les structures de retour à l'école. Son reportage n'aborde pas la question de la prévention qui est à peine évoquée tout à la fin. Qu'est-ce qui est fait sur ce plan-là pour qu'on n'en arrive pas au décrochage?
Alors, il y a des choses qui sont faites en établissement, puisqu'on essaie de sensibiliser les personnels, notamment les enseignants et les CPE, aux signaux faibles ou forts, hein, qui pourraient nous alerter sur un élève qui serait possiblement sur la voie du décrochage scolaire. Et ces signes, alors, ça a été évoqué dans ce beau reportage d'Hakim Kasmi, hein, l'absentéisme, voilà, qui peut être un signal, les difficultés scolaires, voilà, qui sont aussi qui peuvent être un signe ou un motif de décrochage, et puis il y a aussi, et ça le jeune Maël l'a évoqué, des élèves qui n'arrivent pas ou qui ne veulent pas respecter le cadre des apprentissages et qui se mettent, comme il a dit, à faire n'importe quoi.
Alors c'est peut-être eux qu'on repère le plus facilement, alors qu'il y a à côté de ça, oui, un décrochage plus silencieux, plus qui discret, peut passer sous les radars.
Tout à fait. Il y a des élèves qui, voilà, dont ces signaux se manifestent de façon très visible, voire spectaculaire. Et puis, il y en a d'autres plus discrets. Et c'est cela qu'il faut qu'on arrive à identifier rapidement, parce que, effectivement, parfois, ils sont tellement discrets qu'on en arrive à ne pas les voir et à les oublier.
Et je crois qu'il y a une majorité de garçons décrocheurs, mais que la part des filles est en hausse.
Oui, alors souvent ce sont les garçons, c'est ce qu'on observe, enfin moi c'est ce que j'ai pu observer dans ma pratique en lycée professionnel, ce sont souvent les garçons qui sont en décrochage, les filles le sont un peu moins, peut-être parce qu'elles sont, je sais pas, peut-être un peu plus scolaires ou qu'elles ne se permettent pas d'expliquer ce genre de choses, enfin, je sais pas trop quelles sont les hypothèses, mais oui, il y a davantage de garçons. Et en lycée professionnel, il y a une autre problématique, il y a celle du choix de l'orientation, des élèves qui subissent une orientation qu'ils n'ont pas forcément choisie, hein, soit parce qu'il n'y avait pas de place dans la filière qu'ils ont choisie, qui était leur premier vœu, soit ils arrivent dans une filière et puis ils se rendent compte que c'est pas la filière dont ils ont rêvé, ou alors ils sont déçus, ils se sont fait une idée de la filière, elle ne correspond pas à ce qu'ils en pensaient, voilà. Donc il y a aussi en lycée professionnel cette dimension là.
Et donc il va y avoir une perte de sens, en fait il y a cette question du sens de l'école, pourquoi je suis là.
Tout à fait. Ouais. Pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là?
Amel Kouza, les missions locales font un travail de repérage des élèves déscolarisés ou en voie de déscolarisation?
De plus en plus, on a effectivement cette responsabilité au sein de ce réseau. Plus exactement, depuis 2011, le partenariat entre l'éducation nationale et les salariés de missions locales se renforce par le biais d'instances comme les PSAD, les plateformes de soutien et d'appui aux décrocheurs, qui, selon les territoires, sont prises, enfin, investies de manière très différente, très disparate. Ça dépend vraiment de l'impulsion de personne, puisque les process ne sont pas définis, et tant mieux, ça permet de la souplesse. Mais depuis 2011, effectivement, on a de plus en plus de responsabilités partagées dans cette question du repérage des publics. Alors, au départ, c'était plutôt les publics qui étaient en voie de décrochage avancé, c'est-à-dire on avait deux instances par an auxquelles on participait. Octobre, novembre, attention, ça va pas. Et donc, on en parle à tripartite, école, mission locale et jeunes. Et puis, février, mars, ça y est, ça part. Bon, il faut trouver des solutions. Et maintenant, depuis 2023-2024, on rentre dans l'établissement de manière beaucoup plus officielle. On a institutionnalisé vraiment des interventions. Et l'an dernier, depuis 2024, en fait, on a approché 33 000 élèves dans des lycées pro lors d'ateliers que les missions locales animent pour permettre aux jeunes de découvrir toutes les questions qu'ils vont devoir affronter en sortant d'école. Qu'est-ce que c'est un métier? Qu'est-ce que c'est une recherche d'emploi? Comment j'approche un employeur? Et quels sont mes plans possibles, en fait, par rapport à ma situation scolaire ou ma situation en dehors de la scolarité?
Des questions qui peuvent les inciter justement à se dire ben, l'école, ça peut me servir à ci ou à ça.
C'est ça, remettre du sens. Et d'ailleurs, dans tous les reportages de ce grand reportage, il y a à chaque fois cette question du sens, de remettre du plaisir aussi, remettre de l'intérêt à ce qu'on fait. Et ça passe par plein de choses. Enfin, je m'avance, mais c'est de la taille humaine, de la proximité. C'est du lien entre individus, peu importe l'âge qu'on a, et ça permet effectivement de renouer, de réconcilier les générations, les jeunes avec eux-mêmes, avec l'institution.
Alors parmi les problèmes qui sont cités, bon, en ce moment les politiques s'emparent des questions du portable à l'école, faut-il aussi interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans? Est-ce que, à vos yeux, ça, ce sont des problèmes majeurs qui contribuent au décrochage, Carole Zerbib?
Non, je ne crois pas que ce soit les premiers problèmes. Il y a d'autres choses. Hein. Il y a le problème pour certains du rapport à l'école. Tous les élèves ne sont pas forcément sur les mêmes rails. Et on a parfois du mal à l'accepter et à prendre en considération les besoins de chaque élève. Les enseignants gèrent un groupe et quand un élève est un peu différent, c'est un peu compliqué. Il y a des difficultés sociales. Il y a les élèves qui rencontrent des difficultés sociales importantes, des difficultés psychologiques aussi importantes. On l'a vu à travers les élèves qui développent ces phobies scolaires. Alors, il peut y avoir des élèves qui sont dans des problématiques de rapport à l'écran, qui passent leur nuit sur l'écran et qui arrivent le matin à l'école sans vraiment avoir envie. Alors ils sont extrêmement fatigués et puis ils voient plus bien le sens. Voilà, ils sont plus vraiment en état, ils voient plus. Voilà, et ils sont dans autre chose, ils sont dans une autre dimension parce que ils ont il y a ce rapport aux jeux vidéo qui peuvent être une sorte d'addiction et qui font que petit à petit, ils décrochent. Bon, voilà, c'est un facteur, mais ce n'est pas un facteur essentiel.
Hakim ?
Alors, ce qu'on constate aussi, c'est qu'au niveau des profils, les élèves décrocheurs ne sont pas tous forcément issus de collèges en réseau d'éducation prioritaire ou de familles modestes. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup d'enfants de CSP, voire même de CSP++, qu'on a pu constater durant ce reportage, qui sont aussi décrocheurs. Comment vous l'expliquez? C'est parce qu'il y a eu le Covid et qu'on a beaucoup plus parlé de la santé mentale qu'aujourd'hui, on parle un peu plus de toutes les catégories de décrocheurs?
Alors oui, c'est vrai que après le Covid, on a davantage pris conscience qu'il y avait des élèves qui n'allaient pas bien. Alors il y a le Covid en lui-même, hein, le fait que les élèves ne soient pas allés à l'école pendant plusieurs mois, aient été en rupture de scolarisation, en rupture de socialisation, et ça a permis de prendre conscience. Mais et de plus en plus, on a affaire à ces élèves qui sont dans des phobies scolaires. Et on prête davantage attention. Je crois qu'on laisse davantage ces élèves s'exprimer, on les prend davantage en considération et on entend davantage, parce qu'on y est sensibilisé, ces élèves qui sont dans un refus d'école. Moi, j'ai vu des élèves, les parents me disaient, mais je comprends pas, ils sont absentistes, mais je le dépose tous les matins devant l'école. Et il y a des élèves qui disent, mais quand je me retrouve devant la porte, je peux pas rentrer. Je peux pas rentrer dans l'école et je fais demi-tour et je vais ailleurs. Et je fais l'école buissonnière.
Amel Kouza, vous n'aimez pas le terme de décrochage scolaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors, en fait, on a longuement décortiqué tous ces termes et effectivement, ce jargon décrochage, décrocheur, décroché met beaucoup l'accent sur le public, sur les jeunes, sur les familles aussi. Ça stigmatise et ça essentialise. On devient un décroché et on le reste, a priori. Alors que si on change un petit peu de... D'ailleurs, il y avait un des psychiatres qui parlait de champ lexical, qui était hyper important à investir pour repenser la question. Si on parle de rupture de scolarité, on déplace le curseur de la responsabilité sur beaucoup d'autres personnes que l'individu. Et le mérite de la réussite et les raisons de l'échec pèsent sur absolument tout un système, ce n'est pas uniquement sur une personne. Et on a tendance, effectivement, à responsabiliser les parcours et les individus dans ces parcours.
Hakim ?
Alors, au niveau pédagogique, je m'adresse à vous deux, hein. Selon vous, que pourrait-on faire ? Alors, on dit souvent que l'école ne peut pas tout. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, revoir les programmes, voilà, voir un peu comment accompagner ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau pédagogique pour mieux accompagner les élèves décrocheurs qui sont de plus en plus nombreux ? Parce qu'aujourd'hui, on a aussi des élèves qui sont TDAH, qui sont HPI, qui ont différentes pathologies, qui avant n'étaient pas forcément connues. Voilà, c'était un peu plus tabou avant.
Il y a la prise en compte, hein, justement, de ces difficultés et des préconisations qui sont faites pour essayer de faire en sorte que l'élève puisse être dans ses apprentissages avec ces difficultés qui ont été repérées. Ça a été dit aussi dans le reportage, le travail en petits groupes, ça permet quand même aux élèves de travailler mieux et aux enseignants d'avoir une meilleure attention à l'élève et à ses difficultés. On le voit aussi dans le reportage, l'écoute qu'on peut apporter aux élèves, le suivi. Il y a quelqu'un qui dit, alors je ne sais plus si c'était un élève, mais on prend l'élève par la main. Voilà, l'élève sent qu'on le prend par la main. Donc c'est un accompagnement au plus près de l'élève. Oui, il y a des élèves qui ont besoin de cette proximité-là avec l'enseignant. Il a besoin d'être dans un cadre sécurisé, bienveillant, rassurant.
Au niveau pédagogique, dans les apprentissages, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer ? On sait qu'aujourd'hui, par exemple, en Europe, même en France, on a l'un des taux les plus importants d'élèves par classe, ça baisse un tout petit peu, mais reste encore au-dessus. Est-ce que là aussi, que ce soit au niveau pédagogique, au niveau des effectifs, il n'y a pas quelque chose à faire pour mieux accompagner les élèves et limiter les décrocheurs ?
Oui, et favoriser le travail en petits groupes, mais ça a été proposé. Hein. On l'a vu dans la réforme du lycée professionnel et là au collège, hein, proposer les groupes de besoins. On sait bien que quand un enseignant a moins d'élèves, il peut être au plus près de l'élève. Ça c'est et l'accompagnement personnalisé aussi, ça a été une réponse à cela, hein, à la question des apprentissages et à l'accompagnement des élèves. Renforcer la proximité avec l'élève. Maintenant, dans les apprentissages, modifier les programmes, je suis pas tout à fait sûre que ce soit la solution, mais en tout cas peut-être s'interroger sur la façon d'enseigner, enseigner autrement, s'adapter aussi aux difficultés des élèves et les accompagner au plus près.
Je pense aussi à Maëlle qui parlait de la CPE qui criait et puis de celle qui vient manger avec les élèves. On peut se dire que c'est aussi tout un état d'esprit. Amel Kouza, l'école fait des efforts pour être de plus en plus inclusive, hein, c'est ce qu'on lui demande. Et donc d'être à l'écoute des différences de chaque élève, etc. Mais en même temps, elle lui demande d'amener de plus en plus d'élèves au bac. Est-ce qu'on peut concilier ces deux objectifs ?
La massification, effectivement, n'a pas été accompagnée de moyens supplémentaires. On est resté dans des effets d'annonce. On y va, d'ailleurs, mais petit à petit, le niveau est impacté. Puisqu'en fait, si on demande à un groupe d'individus à aller de plus en plus important, à aller sur un niveau, sans donner pour autant les moyens de maintenir ce niveau, ben, mathématiquement, les vases communicants, le niveau baisse pour être sûr d'atteindre ce 80%. Donc, il y a plein de choses. Alors, sur la question précédente, on a travaillé sur l'école du socle. C'est un gros travail qui a été fait dans les années 2010-2012, où ils ont réfléchi à des choses toutes simples. En sortant, alors, fin d'élémentaire, on a un seul enseignant. Puis on arrive au collège, on en a une douzaine. Peut-être qu'on n'a pas assez d'enseignants en CM2 et trop en sixième. Peut-être qu'on pourrait lisser ces passages qui sont extrêmement violents, où en fait, on passe du chaud au froid à toute vitesse. Ça, c'est des éléments assez intéressants qui n'ont jamais été explorés sur le terrain. Et puis peut-être arrêter d'être dans l'expérimentation. Quand ça marche, il faut peut-être généraliser. tous ces dispositifs dont vous avez parlé, qui sont très vertueux, qui mettent en avant énormément de solutions très pratiques et très accessibles, restent encore au niveau de l'innovation, restent encore au niveau de l'expérimentation, alors qu'en fait, il y a déjà du savoir qui est conçu, il y a déjà de la transformation sociale possible, mais on les cantonne dans ce registre à part.
Et comment vous l'expliquez ? Manque de moyens, frilosité ?
L'éducation nationale, c'est un énorme chantier qui est bien au-delà de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il y a de la transversalité. Quand on s'intéresse aux élèves, on s'intéresse aux enfants, aux jeunes adultes, à leur famille, à l'écosystème, mais aussi à l'économie, à la relation au monde du travail. Et en fait, si on fait peser entièrement ces responsabilités sur l'éducation nationale, on se prive d'une discussion systémique et d'une discussion au niveau de la société. Donc, voilà, on a souvent tendance à regarder que par le petit bout de la lorgnette, alors qu'en fait, il faut prendre de la hauteur. Et quand il y a des hauteurs qui sont prises, on ne transforme pas l'essai.
Et ce qui est très difficile, c'est qu'on se dit à un moment, il faut se mettre à la hauteur des enfants. Mais en même temps, ces enfants, il faut bien les préparer à l'adversité, si on veut qu'ils trouvent leur place ensuite dans la société. Il faut bien apprendre à gérer le stress, il faut bien surmonter tous ces obstacles. Donc la pression, elle existe.
Oui, mais alors après, il y a plein de méthodes possibles pour affronter cette pression. On peut être dans l'effet Pygmalion, avec de la bienveillance et de la proximité, puis on peut être au contraire dans l'effet tout à fait inverse, et le fouet a ses résultats aussi. Enfin, après, c'est une question aussi de projet de société. Ah, on veut fabriquer des petits êtres capables de se débrouiller, est-ce qu'on veut fabriquer des adultes autonomes et émancipés, ou des bons petits soldats? C'est une vraie question.
Carole Zerbib.
Dans le reportage, on l'entend aussi tout au début du reportage, avec ce que j'appelle la pédagogie du détour, c'est-à-dire que on amène les élèves finalement à éprouver le dépassement de soi ou l'estime de soi à travers d'autres choses qui sont là, qui étaient dans le reportage, une marche des élèves. Oui. Voilà. C'est une autre façon d'enseigner, de transmettre quelque chose qui n'est pas ce qu'on connaît, hein, un rapport descendant dans une salle de classe avec un enseignant qui fait un cours magistral. Voilà.
Et c'est peut-être aussi le regard qu'on a sur le décrochage qu'il faut changer, puisque le décrochage, il peut être négatif, comme il peut aussi être positif. À un moment, on a besoin d'aller faire une autre expérience, et là, il faut peut-être juste favoriser un retour à la formation au moment où les jeunes en ont besoin.
C'est ça, c'est une forme de pouvoir d'agir à un moment, de partir faire autre chose. C'est pas effectivement forcément un choix négatif, ça peut être un moment de reconstruction, de découverte de nouveaux horizons.
Merci Amel Kouza, merci Carole Zerbib. Le grand reportage de cette semaine, après le décrochage, se réconcilier avec l'école, était signé Hakim Kasmi. Réalisation Annie Bro, à la technique Anthony Thomasson, au web Caroline Beneteau. Documentation Karine Huyghe et Véronique Le Faller. Pour retrouver ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France.